11h01 sur Nord FM. Bonjour à tous. Le pour ou contre de ce lundi 18 avril avec Françoise Grelet qui est avec nous, conseillère régionale Grand Est.
Pour ou contre, tous les jours 11h midi sur Nord FM.
Les sujets qui font l'actualité ce matin, grande nouveauté. Anne-Sophie Grosse qui nous rejoint pour le pour ou contre. Salut Anso.
Salut tout le monde.
Salut Gaëtan.
Bonjour Jérôme.
Alors les sujets qui font la polémique, ou du moins en tout cas les sujets dont on parle dans l'actualité, cette polémique justement à Air France.
Des hôtesses de l'air refusent de porter le voile pour atterrir en Iran.
Cette dernière information, Marion Maréchal Le Pen reprend Florian Philippot sur le mariage pour tous.
Le vice-président du FN avait relativisé l'abrogation du mariage pour tous.
Et puis on parlera du mouvement Nuit Debout également.
Pour Marion Maréchal Le Pen, c'est un mouvement de jeunes lycéens, étudiants qui se font plaisir, qui fument du pétard.
Et oh, quoi?
Bah oui.
D'accord, très bien.
Phrase qui est sortie.
Et puis cette question du jour, Anso.
Les hôtesses de Air France ont-elles raison de refuser le port du voile pour aller en Iran?
Eh bien, vous nous dites tout ça sur les réseaux sociaux notamment.
Sur Facebook, officiel Leur FM, vous n'hésitez pas également à nous appeler au standard 03 82 21 04 04.
Il est 11h05 sur Leur FM, Françoise Grelet est notre invitée, conseillère régionale Grand Est. Bonjour Françoise Grelet.
Bonjour à tous.
Ça y est, on peut vous appeler conseillère régionale Grand Est?
Pas encore, ça va être
pas officiel
bientôt, oui.
Mais ça devrait
et
être
nous,
ça.
Non, voilà, ça sera voté sans nos voix. Nous aimions bien l'Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine.
En fait, on aurait dû rester sur la base, c'est ça?
Mais bien sûr, ce qui n'empêche pas d'utiliser un acronyme pour des raisons pratiques. Mais nous tenons à l'identité de nos régions et rien ne remplacera, surtout pas Grand Est qui est...
Mais je pense qu'on restera quand même.
Ça ne parle pas.
Mais ce qui est dingue quand même, c'est que au départ à Cal, ça plaisait à personne. Et aujourd'hui, on aimerait bien rester à Cal.
C'est vrai. Bah,
ce qui ne plaît pas surtout, c'est la fusion des régions finalement. Parce que pour voir ça un petit peu de l'intérieur, c'est un formidable bazar qu'on est en train de mettre en place. On perd du temps alors qu'on a besoin de gagner de l'attractivité, de répondre aux besoins de nos concitoyens. Et là, on est en train de se prendre la tête sur des questions de nom, d'organigramme, etc. C'est grave. Hein.
Bon, il est 11h06, on va passer aux sujets qui font l'actualité pour pas traîner sur ce genre de sujet qu'on a eu longuement l'occasion de discuter ensemble. Et cette polémique à Air France, Gaëtan.
Alors que les vols Air France entre Paris et Téhéran ont repris hier, des hôtesses de l'air refusent d'être contraintes à porter le voile en Iran. Comme leur demande la compagnie aérienne, les hôtesses doivent pouvoir avoir le droit de refuser cette mission, estime Flore Arrigui, présidente de l'Union des navigants de l'aviation civile.
Alors de son côté, Air France explique que ses équipages sont tenus, comme tous les visiteurs étrangers, de respecter les lois des pays dans lesquels ils se rendent. Toutes les compagnies aériennes sont tenues de respecter les lois des pays dans lesquels elles opèrent. Est-ce que c'est une polémique ou c'est une fausse polémique? Moi, c'est la question que je me pose.
Mais écoutez, mettez-vous à la place des femmes à qui on demande de mettre un symbole quand même de soumission quand elles arrivent sur le sol iranien.
Un symbole religieux avant un symbole de soumission.
Oui, une soumission religieuse, oui, d'accord. Peut-être une soumission à Dieu, mais aussi un symbole. Les femmes se cachent finalement derrière ce voile. Moi, je comprends tout à fait qu'une employée n'ait pas envie de s'abaisser finalement. Il y a une question de respect que je comprends tout à fait, hein, de respect des règles du pays. Et d'ailleurs, on serait bien inspiré en France aussi de demander à certains de respecter les règles de notre propre pays, les lois de la République française.
Vous voyez, c'est cette question moi que je me pose. Et je sais qu'on sera peut-être pas d'accord Anso là-dessus. Aujourd'hui, une start-up qatari arrive en France pour un rendez-vous professionnel. Est-ce qu'elle doit garder son voile dans les lieux publics et sa burqa?
Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce genre d'activité?
Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'elle doit la garder ou elle s'adapte aux lois du pays?
Moi, je pense qu'il faut s'adapter aux lois et le vêtement n'est qu'un symbole.
Hein, et pourquoi, en France, pourquoi on en fait la guerre sur la burqa si c'est qu'un symbole?
Actuellement, écoutez, moi je suis tout à fait respectueuse des croyances et des règles chacun. Maintenant, en France aujourd'hui, comme dans beaucoup de pays, ça n'est plus simplement une tradition, on va dire. C'est devenu une revendication pour un certain nombre de personnes et puis une pression de la part des salafistes notamment pour que les femmes
Pas des habitants français, je vous parle d'un employé qui vient de l'étranger, oui, chez nous pour une semaine par exemple.
Et bien justement si c'était quelque chose de d'épisodiques qui ne pèsent pas sur notre société, ça ne poserait aucun problème selon moi. On n'est pas dans un combat religieux.
Hein? Du tout, c'est, du mais tout. Du tout.
En revanche, il y a des lois. On parle beaucoup de vivre ensemble et justement, on le sait bien, on ne peut pas ignorer qu'actuellement dans les cités en France, une femme ne peut pas se promener et loin de.
Oui, mais là on s'écarte du sujet.
Non, François Douala. Si,
moi je parle d'une salariée. On reste sur le salarié.
Si le voile est banalisé dans notre pays aujourd'hui.
On parle pas de banalisation. Je vous pose une question. Répondez-moi juste à cette question.
S'il n'y avait que un cas exceptionnel. Et qui passerait pour une exception de quelques femmes qui portent un voile parce qu'elles y tiennent vraiment, que c'est qu'elles viennent d'un pays où c'est une obligation, etc. Ça va. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ont la pression, ne s'habillent pas comme elles veulent, et pas seulement dans les cités françaises. Et là, il y a un problème.
Anne-Sophie.
Moi, ça n'est pas le voile lui-même, mais c'est la prolifération du voile qui pose une question sur la liberté des femmes.
Là, c'est pas le sujet.
Le sujet des hôtesses de l'air, c'est quand même incroyable qu'on ajoute finalement une obligation à des hôtesses de l'air.
Est-ce que les hôtesses de l'air iraniennes peuvent se promener dans l'aéroport avec leur voile ou une burqa? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'aujourd'hui, elles ont le droit de le faire à Roissy? Est-ce qu'elles seraient hors la loi de le faire?
Ah bah, la burqa, c'est pas du tout dans l'uniforme.
Alors,
on parle du voile.
Donc le voile.
Actuellement, bien sûr qu'elles ont le droit de porter le voile en France.
C'est pas une loi, on est d'accord. On est d'accord que c'est pas une loi. La seule loi qui a été faite, c'est sur cette histoire de burqa.
La burqa intégrale.
Voilà, c'est ça.
Voilà, bien sûr. Non, mais ça.
Mais parce que c'est une loi de chez nous.
Oui.
C'est une loi de chez eux. Pourquoi elles s'adapteraient pas? Et elles ont plus l'occasion de pas y aller. C'est l'Air France leur a laissé le choix. Vous pouvez ne pas être affecté là. Je comprends pas.
Ah pourquoi. Non, Air France ne laissait pas le choix. Au dernier état de la polémique, les hôtesses de l'air n'avaient pas le choix.
De se voiler,
c'était considéré comme un refus de mission qui pouvait être sanctionnable. Et je vois que maintenant,
Mais Air France a reculé là-dessus. Air France a finalement dit, on va clore la polémique et on va donner le choix justement aux hôtesses de porter. Enfin, d'assurer ces liaisons.
Pour moi, c'est un petit peu comme le travail du dimanche, voyez. Au début, on donne le choix, et puis finalement, on se rend compte que dans une équipe, si on refuse toujours les mêmes missions, il y a aussi une rupture de l'égalité dans l'équipe qui fait que on va se sentir obligé de le faire aussi. Et au dernier développement donc de cette polémique, des personnes homosexuelles ont dit qu'elles ne voulaient pas y aller non plus à cause du sort qui est réservé.
L'histoire des stewards, exactement.
Donc, moi, je pense qu'il faut respecter les croyances et les coutumes de chaque pays.
Et les lois.
En revanche, sur la burqa, c'est quand même particulier.
Moi, je parle de chez. C'est une loi là-bas. Enfin, moi, voilà, moi, je suis bête et méchant et discipliné. Il y a une loi, je la respecte. Comme on demande aux Français de respecter les lois, aux Français
et
de ne pas porter une burqa.
Aux étrangers qui viennent en France de respecter
exactement,
les lois.
Mais exactement, il n'y a aucun problème là-dessus. Une loi doit être respectée dans tous les cas. Oui. On va continuer, il est 11h12, cette émission de ce lundi matin avec Françoise Grelet qui est avec nous. Ce sera juste après Superb, Strong and Beautiful. Barbara qui nous laisse ce commentaire, je vous ferai réagir les filles dessus. Je peux comprendre qu'elles refusent, je refuserai aussi à leur place. Mais paradoxalement, en France, on leur dit de s'adapter et d'enlever leur voile. On parle du voile intégral, attention à faire attention avec les mots lexicales, car c'est notre pays et on est comme ça. Alors je pense que si on veut qu'on nous respecte, il faudrait aussi les respecter dans leur pays, c'est la coutume, il faut s'adapter. C'est pas bête comme commentaire.
Bah non, c'est même très intelligent. C'est une réaction qui semble logique, en tout cas, ça semble découler d'une logique qui est vraie. Si nous on demande aux étrangers de s'adapter aux lois de notre pays, pourquoi est-ce que nous on ne ferait pas la même chose?
Moi, c'est la question que je me suis posée. Je crois qu'on est tous d'accord autour de cette table pour se dire que c'est une fausse polémique.
Pense que tout de même, s'agit de salariés français. Hein,
c'est ça, exactement.
Maintenant, qui viennent
si aujourd'hui ils ont le choix d'assurer ces vols ou non, la polémique est enterrée.
Enfin, s'il y a une pression en même temps sur les salariés, encore une fois,
on ne sait pas.
Mais bon, moi, j'aurais tendance à penser que si ces personnes réagissent de cette façon-là, c'est qu'elles se sentent menacées dans leur liberté de travailler.
Invité du grand jury d'RTL, Marion Maréchal-Le Pen reprend Florian Philippot sur le mariage pour tous.
Florian Philippot avait relativisé mardi dans un article du Monde la nécessité d'abroger le mariage pour tous, abrogation souhaitée par le Front National.
Alors, un débat qui
ça pour, vieux, c'est hein, une fausse polémique pour moi 2002. Aussi. Hein, franchement,
vous avez le droit hein, de le dire clairement. Hein. Et puis, est-ce que tout le monde doit être d'accord au sein de la même partie?
C'est un non-événement. Bah, disons qu'il y a les individus, il y a leur sensibilité, etc. Puis il y a un programme. Tant qu'on est d'accord sur un programme, on peut après avoir des façons d'aborder un petit peu différentes. Là, c'était vraiment la réaction de Florian Philippot, c'était vraiment sur le côté crucial de ce sujet. Pour moi, les choses sont claires au Front National. On a dit que la loi, donc ce mariage pour tous, n'était pas la bonne réponse à de vrais problèmes, et que donc Marine Le Pen s'était engagée à revenir sur cette loi. Pas de façon rétroactive, évidemment, devrait-on le rappeler, mais à revenir sur cette loi qui ne répond pas à l'intérêt forcément des enfants. Et puis à l'évolution de cette loi, donc vers le.
Mais est-ce que les Français ont donc quelque chose à faire? L'adoption.
Mais voilà, la question c'est que. Maréchal Le Pen a fait hier soir une émission sur des sujets très variés.
On ressort
ce petit sujet-là qui est polémique. Pour moi, il n'y a pas de différence sur le fond, mais simplement sur la forme entre eux. Tant que l'orientation du Front National est claire là-dessus, ça ne me pose aucun problème. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à une actualité qui est bien plus importante, hein, c'est celle des familles. Aujourd'hui, que fait le gouvernement, que fait notre société pour les familles? Ça, c'est une façon positive de voir la réponse qu'on peut apporter à des cas individuels, à des problématiques qui ne concernent pas tous les Français. En revanche, ce qui concerne tous les Français aujourd'hui, c'est le sort des familles, c'est la précarité pour les jeunes, c'est
on sort du sujet sur le mariage pour tous,
hein. Parce que pour moi, c'est
donc,
vraiment un événement.
Clairement, Marine Le Pen reviendra sur cette loi en 2017.
Bah, elle l'a dit, mais bon, maintenant, est-ce qu'on doit en reparler tous les mois?
On rentre en campagne quand même tout doucement. On est à moins d'un an des présidentielles. Forcément, ces sujets reviennent sur la table.
Écoutez, je pense qu'on peut pas reprocher au FN et à Marine Le Pen de pas dire ce qu'elle veut faire et de ne pas varier, contrairement à beaucoup de politiques sur divers sujets. Je pense à Nicolas Sarkozy par exemple, mais à d'autres. Nous n'avons jamais eu un discours électoraliste ni là-dessus ni sur d'autres sujets. On n'a pas besoin de revenir non plus tout le temps sur le sujet. Est-ce que c'est pour alimenter des tensions, etc. Moi, je repense sur ce sujet à Anne Gromersch, figurez-vous. Je suis à Thionville, je suis Messine, avec donc sa disparition toute récente. Je voudrais lui rendre hommage parce que j'ai ce souvenir d'avoir été avec elle dans le TGV, donc dans le bar du TGV, nous nous rendions à une des manifs pour tous justement pour répondre, et donc on avait discuté ensemble il y a quelques années. C'était une femme courageuse, c'était une femme qui porter ses opinions et son combat politique. Donc je voudrais lui rendre hommage aujourd'hui et apporter donc mes condoléances à ses proches.
Oh, écoutez, mais, vous avez bien fait d'utiliser notre antenne pour.
Mais concernant le mariage pour tous, là on est un petit peu sorti du sujet.
Oui,
vous dites que c'est un petit peu un non-événement, que c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être, mais pourtant Maréchal Le Pen, il y a pas longtemps, elle reparlait encore du mariage pour tous en disant, d'ailleurs, je crois qu'elle l'a dit hier dans l'émission dans laquelle elle était invitée, qu'elle ne regrettait pas sa comparaison controversée sur la loi du mariage pour tous et la polygamie. Donc c'est peut-être pas une polémique aujourd'hui, mais Marion Maréchal Le Pen l'amène comme ça en disant il va falloir retravailler cette loi parce que le mariage pour tous et donc l'homosexualité peut m'aimer. Donc moi je trouve que si, c'est quand même une polémique.
C'était pas l'homosexualité, c'était le mariage. Si on dit que le mariage est ouvert à toutes les formes d'union, c'était à ça qu'elle pensait. De toute façon, la polygamie, c'est une réalité une réalité sociale aujourd'hui. La polygamie est tolérée, qu'on le veuille ou non. Non, pas du tout dans les lois, mais dans l'organisation sociale aujourd'hui. On sait bien que les bailleurs sociaux s'accommodent de cette réalité qui est finalement un fait qui est choquant aujourd'hui chez nous. On n'est pas dans un pays qui dont c'est la loi.
Enfin, si officiellement je suis pas marié, si j'ai envie d'avoir trois copines, une à gauche, une à droite, une au milieu, ça me pose pas de problème. Je suis pas hors la loi.
Et puis les sociologues s'accordent quand même à dire que aujourd'hui, la famille telle qu'on l'imaginait il y a encore un siècle, elle n'existe plus aujourd'hui. Là, on a une sociologue qui s'appelle Martine Fournier et qui dit il aura fallu moins d'un siècle pour que ce modèle vole en éclats. Aujourd'hui, plus de modèle unique. La famille peut être monoparentale, recomposée, constituée d'un couple mixte, marié ou non, homosexuel, des demi-frères, des demi-sœurs, des adoptés, etc.
Mais bien sûr, donc la famille a évolué. Maintenant,
faut peut-être évoluer avec elle aussi.
Non, la question c'est le mariage lui-même. Bon, est-ce que c'est vraiment le lieu pour revenir sur un débat qui
nous a pris plusieurs années, effectivement, la question aussi est intelligente finalement.
La question c'était de savoir si la formule du mariage, qui est l'union d'un homme et d'une femme pour donner des enfants, là, pour le moment on n'a pas trouvé mieux pour engendrer des enfants, est-ce que cette définition du mariage doit être appliquée à différents modes de vie commune qui existe aujourd'hui, en effet. Ça,
mais alors, est-ce qu'aujourd'hui
le mariage, cette institution du mariage, a ses diverses formes. La question, c'était aussi la marchandisation du corps humain avec les ventres alloués, avec la gestation pour autrui.
Qui a été totalement rejeté par le gouvernement et qui ne sera jamais voté d'ailleurs.
Qui a été rejeté par le gouvernement, qui est dans les faits, encore une fois, toléré, mais bon, ça c'est l'évolution.
Mais bon, aujourd'hui, le mariage...
Il y a des pays où c'est la règle.
Oui, par exemple, aux États-Unis, où ça marche très bien.
Donc
monde continue de tourner rond, finalement.
Exactement, et les enfants sont pas forcément impactés.
Ça serait une régression des droits de la femme et de
sauf si elle est volontaire.
Formidable. Encore une fois, les femmes qui louent leur ventre en quelque sorte, porter l'enfant d'un autre, est-ce qu'elles sont volontaires ou en général, on voit bien dans les cas.
Il y a des femmes qui adorent être enceintes. Hein. D'ailleurs, ou en
revanche, oui, enfin, en faire son métier ou en faire une façon de gagner de l'argent. On sait bien que souvent, ça répond à une misère sociale. Dans les cas qui sont. Est-ce qu'on doit aller dans cette direction-là?
On va clôturer ce débat parce qu'il nous reste une demi-heure d'émission. Et voilà, exactement, on en a d'autres à regarder ensemble. Il est 11h30.
Pour ou contre? Tous les jours, 11h30 sur leur FM.
11h36 sur leur FM. Françoise Grelet est toujours notre invitée, conseillère régionale Grand Est, Front National. Le mouvement Nuit Debout, est-ce que les jeunes ont le droit de rouspéter dans la rue?
Écoutez, ils ont commencé de façon fort légitime à s'opposer à la loi travail, qui était une régression pour les jeunes comme pour tous les salariés. C'était la précarité pour tous, on peut dire. Et aujourd'hui, quelle réponse leur apporte le gouvernement? Ils se fichent complètement de cette contestation. Ils proposent des allocations pour tous. Alors les jeunes demandent justement à ne pas être précaires et on leur répond allocation. Est-ce que c'est vraiment une façon de prendre en compte la réalité des problèmes dans notre pays? Je ne le crois pas.
Alors pour Marion Maréchal Le Pen, c'est un mouvement de jeunes lycéens et étudiants qui se font plaisir et qui fument du pétard.
Je vois là une construction médiatique totalement artificielle. On essaie de faire croire à un grand mouvement citoyen inédit, a-t-elle dit. Je vois surtout objectivement une poignée de professionnels de la politique, de militants associatifs, de syndicalistes, a-t-elle dit. C'est un mouvement qui ne représente rien et personne.
Bon allez, peut-être à la rigueur. Imaginons que c'est la vérité. Et alors, qu'est-ce que ça fait?
Oui, c'est un mouvement qui est en perte de vitesse, de toute façon, forcément. La nuit debout, ça va bien.
Ils sont un peu encoquinés par les casseurs aussi, hein. Ils veulent pas forcément mêler à ça.
Voilà. Hein. En plus, c'est un mouvement qui est débordé. On est quand même normalement dans un état d'urgence, là, où on doit pas manifester librement. Bon, il y a beaucoup de tolérance qui a été apportée. C'est un peu chaque génération a besoin de faire son mai 68, hein, il me semble. Il y a ce côté-là. Il y a beaucoup de gens de gauche qui se sentent trahis par ce gouvernement et pour eux c'est une façon de s'exprimer. Mais je crois que ce mouvement n'aboutira pas si on ne va pas au fond des choses. Il y a des réformes structurelles à apporter. Si on veut plus de démocratie, si on veut apporter vraiment répondre à l'attente d'un emploi finalement, d'un emploi réel qui ne soit pas des petits boulots, il y a des choses à faire.
Qu'est-ce que vous feriez alors?
Écoutez, moi je prends l'exemple de la mairie de Metz, la municipalité socialiste qui, il y a quelques années, quand François Hollande a lancé les emplois d'avenir, s'est précipité dans cette proposition, mais ce sont des emplois précaires. C'est un avenir précaire.
Et moi,
pour ces jeunes avaient donc en 3 ans la possibilité donc d'acquérir une qualification, etc. Mais ne devaient pas après le travail ne devait pas être stabilisé. Eh bien, on vient de revoter au conseil municipal la reconduction de ces emplois d'avenir, et on se rend compte que les précédents ont été embauchés dans des postes qui ont été détruits en tant qu'emploi statutaire de la fonction publique territoriale. On avait des emplois techniques à la mairie de Metz qui ont été détruits, qui ont été supprimés par la mairie, qui profitent de cette aubaine.
Et est-ce qu'ils sont contents ces gens qui ont des contrats d'avenir?
Mais bien sûr que pour eux c'est mieux d'avoir un emploi d'avenir que rien du tout. Mais si, il y a une certaine hypocrisie à supprimer des emplois réels parce que ces emplois-là sont très aidés par l'État. Donc on rentre dans un effet d'aubaine et on sait très bien que les emplois aidés pèsent finalement sur ceux qui travaillent. Donc c'est des taxes supplémentaires pour ceux qui travaillent réellement, ceux qui pourraient créer des emplois, les PMI, les PME. Les grands groupes arrivent toujours à jongler sur tous ces dispositifs, mais pour ceux qui devraient créer l'emploi et qu'on devrait soutenir, les commerces, les artisans, etc., bah c'est des taxes en plus pour
eux.
Alors moi je voudrais revenir au sujet de départ, parce que on parle quand même de Marion Maréchal Le Pen, qui dit donc que ce mouvement c'est quand même un mouvement de jeunes, de lycéens étudiants, et en plus qui fume des pétards. Alors, vous dites que ce mouvement n'aboutira à rien si on n'écoute pas justement ces jeunes qui se réunissent et qui essayent de faire cette démocratie participative. Du coup, est-ce que vous vous désolidarisez des propos de Marion Maréchal Le Pen qui, pour le coup, décrédibilise ce mouvement?
Disons que le mouvement, on peut l'observer dans les grandes villes. Je pense qu'elle parlait peut-être aussi
dans les grandes villes. On en a quand même eu à Metz. Il y en a eu dans plusieurs villes de province. Non, mais quand j'entends grande ville, j'entends Paris, Bordeaux. On a eu pas mal de mouvements dans la province
et en Europe.
À Metz, il y a eu également des dégradations. D'ailleurs, la municipalité a fait savoir qu'il fallait pas que ça continue sur ce mode-là, mais il y a eu également des dégradations suite à la Nuit Debout.
Mais ceux qui participent au mouvement Nuit Debout
après,
et qui participent
pas de décrédibiliser les personnes,
à ces âgés, se désolidarisent des casseurs. Donc, est-ce qu'il faut quand même mettre tout le monde dans le même panier et laisser Marion Maréchal Le Pen dire que c'est un mouvement où ce ne sont que des jeunes et en plus qui fument des pétards pour les décrédibiliser, alors qu'on a quand même des personnes qui viennent de tout bord politique, de tout âge. On a des lycéens, mais on a également des jeunes qui sont des personnes qui sont salariées depuis 20 ans, 30 ans,
bien
et
sûr,
qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement.
Et moi, pour rebondir sur ce que vous nous expliquez par rapport au contrat d'avenir, je vais vous donner un exemple concret. J'ai une copine à moi qui m'a annoncé cette bonne nouvelle samedi, je l'embrasse si jamais elle nous écoute, Mélanie. elle avait un contrat pareil dans une école où elle donne des cours. Elle passe en contrat de professionnalisation.
Ouais.
Elle aura accès à 100 € par mois. Je vous jure qu'elle était la plus heureuse du monde parce qu'elle se disait, j'ai quelque chose derrière quand même.
Et puis, c'est aussi une expérience. C'est une première expérience quand souvent il y a un cercle vicieux.
Et c'est là, en fait, les politiques veulent souvent penser à la place des salariés. Oui, mais c'est quelque chose de précaire, etc., etc. Oui, le président a fait ci, mais du coup, ils les mettent dans la précarité. Mais ils s'en foutent. Ils travaillent et ils sont contents.
Oui, bien sûr. Mais est-ce que vraiment la noblesse de la politique, c'est de...
Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a le choix de faire autrement? Je crois pas. Ils ont envie de travailler, ces gens.
Non,
ils font comment?
Il faut les écouter.
Les politiques doivent prendre de la hauteur aussi. Bien sûr qu'il faut les écouter.
Mais c'est le problème, ça fait 30 ans qu'ils sont pas capables de le faire.
Ah,
ça.
Mais qu'ils dites-vous. Bien sûr qu'ils n'apportent des réponses à court terme.
Et la classe politique a quand même sous-estimé ce mouvement Nuit Debout en disant que ça ne durerait pas longtemps, que ça ne rassemblerait pas énormément de monde. Pourtant, aujourd'hui, on voit que ça date quand même depuis le début du mois de la fin mars. Donc, ça fait quand même plusieurs semaines.
Il est en train de s'essouffler. Bon, on a vu les chiffres à Metz notamment. Oui,
à Metz, il y a 15 la semaine dernière. Mais bon, on peut pas comparer Metz et Paris.
Ouais.
Il est 11h42. On va écouter ensemble Sacha avec Live pour continuer cette émission et aborder ce dernier sujet. C'est la sécurité routière. La mortalité est en hausse de 14,2%. On reviendra sur un sujet polémique. La mortalité est en hausse de 14,2% en mars. Y a-t-il un lobby de la sécurité routière, Françoise Grollet?
Écoutez, moi, je mettrais deux choses bien à part. D'une part, la nécessité de faire diminuer le nombre de morts et la dangerosité de nos routes.
Par quelle solution?
Et d'autre part, l'obsession de nos gouvernants de faire du fric, pour être très très cru, par tous les moyens, en mettant des radars là où ils sont pas forcément nécessaires. Alors qu'il y a d'autres moyens. Regardez, moi je prends la contestation des motards, hein, dont on parle, qui se font entendre ces derniers jours. On veut leur mettre un contrôle technique à la revente et ensuite, évidemment, un contrôle technique régulier de leur véhicule, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de problème d'entretien particulier. Les problèmes d'accidentologie sont ailleurs. Et notamment, une de leurs revendications, c'était d'avoir des doubles glissières dans les virages, hein, sur les autoroutes et sur les voies rapides. Parce que c'est extrêmement dangereux pour un motard, ces glissières métallisées. Ils demandent des choses très concrètes, d'être plus visibles, etc. Mais certainement pas qu'on les enquiquine avec des mesures qui ont finalement pour objectif de faire de l'argent.
Comment vous pourriez lutter contre la mortalité sur les routes de la région ? Enfin, sur les routes de la région, peu importe d'ailleurs... N'importe où en France, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme solution ?
Il y a déjà beaucoup de gens en France et notamment au moment des accidents, qui circulent sans le permis. Là, il y a vraiment un danger. Il y a un laxisme qui est quand même effrayant, de voir des gens qui n'ont pas passé le permis ou qui l'ont perdu et qui continuent à rouler.
Et on fait comment pour les attraper, ceux-là ?
Il faut être plus sévère, je pense, avec les personnes.
S'ils l'ont perdu, c'est qu'ils ont déjà été punis.
Oui, enfin, visiblement, la punition n'a pas été... il ne suffit pas de retirer le permis, mais il y a des gens qui sont des dangers publics, qui circulent en état d'ivresse et qui circulent alcoolisés de façon régulière.
Mais ça, on ne le sait pas. Si on ne connaît pas, c'est pas son mari.
Il suffit de regarder les faits divers.
Et oui, on voit
très clairement l'information.
En amont, on lutte comment ? Une fois qu'on lui a enlevé le permis, comment on peut s'assurer qu'il ne remontera pas dans une voiture dans 15 jours ?
Plus de contrôle routier, plus
et être plus strict aussi avec les personnes qui sont comment dire, qui a une obligation de rendre des comptes régulièrement. Si quelqu'un donc savait qu'il pouvait être puni de façon très stricte s'il récidive, c'est pas le cas actuellement. Eh bien, je pense que ça en ferait réfléchir un certain nombre, soit repasser le permis, soit se mettre en conformité, donc ne pas boire, disons, de façon excessive avant de prendre le volant. Il y a des gens qui sont sous l'emprise de drogue, qui altèrent leur lucidité avant de prendre le volant. Et là-dessus, est-ce qu'on est assez strict, assez ferme ? Je n'en suis pas du tout sûr. Hein.
Alors, le gouvernement a parlé, balancé l'idée, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi ou comment... C'est sorti comme ça. Le gouvernement nous dit bon bah voilà maintenant les contrôles de vitesse avec des radars embarqués. Hein, on parle pas de gens avec des jumelles ou quoi que ce soit. Contrôle de vitesse embarqué, on va pouvoir donner ça à des entreprises privées. Vous en pensez quoi ?
Ah bah je suis vraiment indigné. Il manquait plus que ça.
C'est quoi la définition d'une entreprise ?
C'est de faire du profit, c'est légitime.
De l'argent, on est d'accord. Légitime. Donc expliquez-moi ce qui va se passer.
Et par ailleurs,
avec ça.
Est-ce que ces personnes seront assermentées ? J'imagine que oui.
Oui.
Et finalement, on délègue le service public, le contrôle du service public. Alors on va nous dire peut-être que dans ce cas-là, les policiers seront affectés à des tâches qui motivent peut-être leur vocation, hein, la sécurité, etc. Mais on sait bien qu'ils vont faire ça. C'est déjà le cas à Metz, hein, pour les horodateurs qui vont être délégués et qui sont délégués, ça va être conduit à une société privée.
Oui, mais ça, c'est à la rigueur, bon. C'est pas grave.
Évidemment, moi j'estime que aujourd'hui, dans notre ville, beaucoup de personnes ne viennent pas, elles manquent d'attractivité sur ce plan-là, ne viennent pas à Metz parce que le stationnement est cher et qu'on est sûr de se faire aligner si on ne. Si
ah,
on
je
ne
croyais que
pas.
Vous m'expliquiez que c'était les horodateurs qui seront relevés par.
Tout le système sera délégué à un privé et pour moi ça fait partie du service public. Si on taxe tous les visiteurs qui arrivent à Metz et qu'on les assomme de
tant que la gestion reste au niveau de l'État, à la rigueur ça pose pas de problème
ou la commune mais
voilà ou la commune
non,
exactement.
Moi j'estime qu'il y a des choses dont l'objectif n'est pas de faire de l'argent l'objectif est la sécurité routière de même que si l'objectif est d'avoir un stationnement fluide dans une ville ça ne doit pas être délégué à une entreprise privée dont l'objectif évidemment est de faire de l'argent.
Merci beaucoup Françoise Nollet d'être intervenue dans cette émission, il est déjà 11h51 et c'est terminé, merci Anso.
À bientôt.
Demain. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça ? On se retrouve demain. Merci Gaëtan, à demain. Ciao. L'OFM.